si tu souhaites me rejoindre pour répondre à ces enjeux de pérennisation. Alors, juste pour répondre, en attendant de faire tourner le micro, à la personne qui avait posé la question sur Alès. Oui, cette question m'a aussi été posée pour l'Ariège, des gens, voilà, sur des territoires où effectivement on ne pourra pas monter du chez soi d'abord. Je ne sais pas, Sylvain, si voilà, tu souhaites répondre à cette question en premier.
Alors, c'est évidemment une question extrêmement importante parce qu'elle correspond à l'idée de couvrir le territoire de la manière la plus complète et dans cette idée justement de l'aller vers les personnes. Il pourrait y avoir une contradiction sur le fait de réserver un certain nombre de secteurs forcément très urbains. Alors, c'est vrai qu'il y a une tension pour nous. Les coûts et les équipes qui travaillent sur le chez-soi d'abord, elles ont besoin d'un certain nombre de personnes pour, d'une certaine manière, mutualiser leurs efforts et pouvoir agir le plus efficacement possible. Donc il y a une concentration qui se fait nécessairement vers les métropoles urbaines. Pour autant, il y a sans doute à travailler sur des formes d'équipes mobiles qui pourraient apporter une certaine proximité. C'est quelque chose qui reste à construire, il faut bien l'avouer. On va d'abord se concentrer sur la mise en place des sites sur les principales métropoles, mais avec vous et avec ceux qui se sont notamment manifestés aujourd'hui et puis dans les jours précédents auprès de Pascal, on va regarder comment il est possible de mettre de côté la mutualisation qui est extrêmement importante quand même dans l'équilibre général du programme, trouver les moyens d'aller vers et de respecter la cohérence idéologique d'une certaine manière du programme. Donc ça, c'est un chemin qui est encore à construire et à construire avec vous sur ce sujet.
Oui, alors il y a une question là-bas, monsieur. Là, je pense que c'est bon. Ah,
non,
attendez, non, parce qu'il y a deux personnes qui parlent en même temps. Il y avait monsieur qui avait pris la parole déjà.
Les micros sont éteints.
Ah, les micros sont éteints.
Quelqu'un les a éteints. Il faut juste les rallumer.
Alors, il faut vraiment un micro, en fait, parce qu'on ne va pas vous entendre. Alors,
attendez.
Peut-être que le mien marche.
Voilà.
Allez-y. Alors, monsieur et après madame.
Alors,
pardon.
Léonin Zitunga, je suis président de la Fédération nationale hébergement, VIH et autres pathologies, une fédération qui fédère notamment des associations gestionnaires des ACT et d'autres dispositifs en lien avec la santé. Alors, et je suis aussi directeur général d'une association à Évreux dans l'Eure, et donc j'interviendrai à ces deux titres. En tant que président de la fédération, je voulais vraiment me féliciter, comme d'autres collègues l'ont fait, du fait que ce dispositif trouve pérennisation dans un cadre qui est des ACT, un cadre qui a montré sa pertinence du fait de l'équipe pluridisciplinaire qui a été soulignée tout à l'heure, mais aussi du fait des résultats. Aujourd'hui, dans les ACT, plus de 50% des personnes sortent des ACT vers le logement de droit commun en bail direct. Et puis aussi le travail qui est fait autour de l'accès au droit. Maintenant, nous considérons ce nouveau mode d'ACT comme une offre complémentaire qui doit favoriser le parcours de santé des personnes en situation de précarité. Néanmoins, peut-être une vigilance en termes notamment de création et de déploiement. Aujourd'hui, les ACT dits généralistes, hein, il y a beaucoup de demandes et moins d'admissions effectives. Par exemple, pour 2015, plus de 7 197 exactement demandes, 680 admissions effectives sur le plan national. Donc, il faudrait que dans ces déclinaisons, comme j'ai vu qu'il y a des financements en DAM, on ait une vigilance, que ça ne soit pas des dispositifs, je dirais, concurrentiels, mais qui viennent en complémentarité. Et donc, ça, je pense que ça a été pensé, mais je voulais quand même le signaler. Après, je dirais, à titre, en tant que directeur général de l'association, ce que j'ai évoqué, c'est par rapport à la question qui vient d'être posée précédemment sur les 100 personnes. Mon association gère un dispositif qui s'appelle DAP, dispositif d'accompagnement de proximité de l'heure, qui a été créé, quand j'écoutais, c'est comme on dit, on fait de la prose comme Jourdan sans le savoir. On a créé ce dispositif en 2013 avec l'intervention de l'ARS, de la DDCS, du SPIP et du département. Le constat, c'était des personnes qui étaient à l'hôpital psychiatrique ou au niveau des centres de détention qui n'entraient pas dans le processus de soins. Donc on a créé, sur base de l'étude du docteur Furtos, et on a créé ce dispositif dans du logement, 23 places, avec une équipe pluriprofessionnelle, un médecin psychiatre, une infirmière, travailleurs sociaux, AMP, et des personnes qui accompagnaient avec l'allée vert. Ce dispositif, d'ailleurs, a fait l'objet d'un recensement par le travail qui a été commandé par la DGCS sur les innovations, les actions innovantes qui a été menée par l'ANSA. Aujourd'hui, ce dispositif, en termes de financement, connaît des hauts et des bas. Quand j'avais entendu, je me dis, tiens, on trouve un cadre réglementaire financé qui puisse entrer parce que ça répond à des besoins. Alors, de plus, dans mon association, on travaille avec l'hôpital local où on a un GCMS où on vient de créer un projet de réhabilitation psychosociale, notamment par le logement. Et je me dis, l'équipe, on a suivi de près, l'équipe était prête. Et là, d'après ce que j'entends, et nous sommes dans un département le dernier pourvu en termes psychiatriques. Et donc, aujourd'hui, je me disais, voilà, c'est une offre. Et malheureusement, on est déchanté. Est-ce qu'il y a des aménagements ou ce seuil de 100 personnes, c'est vraiment rédhibitoire? Merci.
Alors, deux choses. Vous voulez, peut-être on va prendre une série de questions, oui. C'est plus simple, tu as raison.
Peut-être on prend une série de questions. Alors,
Bonjour. Je sens qu'il va y avoir un regroupement de questions.
Ouais, oui, tout à fait.
De 100, voilà.
Donc, Sophie Guillon-Verde, je suis de la ville de Nantes, donc responsable d'un pôle logement, hébergement, urgence sociale. Ma question, elle est très courte, j'aurais aimé la poser tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était de poser la question aux 4 sites expérimentaux sur la place que les villes ont pu avoir dans cette expérimentation, ce qui était de l'ordre de facilitateur lorsqu'une ville est plus ou moins partenaire. Voilà, en tant que ville de Nantes, où on va très certainement déposer un projet, j'aurais aimé avoir ce... Voilà.
Il y avait une question là, puis après là-bas, je crois.
Marie-Cécile Marcellesi, je fais partie du conseil d'administration de l'association... Ah, pardon.
Non,
allez-y, allez-y.
Habitat Alternatif Social sur Marseille, qui donc a porté le programme. Notre conseil s'interroge sur la nécessité de mettre en place un groupement de coopération, sur la plus-value que cela peut apporter et sur les points de vigilance à observer.
D'accord. Il y avait une question là, et puis là-bas, je sais pas, Joël ou Gina, peut-être là-bas, monsieur Latimer. Et puis
bonjour, Antoine Meur pour la DDCS du Pas-de-Calais. Alors, je reviens juste à deux questions en arrière sur la question des capacités. Parce que n'ayant pas de grande métropole dans le département, nous, on avait réfléchi à mettre en place une disposition multisite en quelque sorte, et voir si c'était faisable ou non. Merci.
Oui.
Éric Latimer, donc. À nouveau, félicitations. Je suis vraiment émerveillé de tout ce que j'entends. Je veux juste soulever la question de le flux des personnes au travers du système. Vous avez évoqué la pertinence d'avoir des équipes de type ACT qui pourraient accueillir les personnes qui n'ont plus besoin de l'équipe Housing First. Je ne sais pas si vous avez aussi envisagé faire quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de systèmes de santé mentale, c'est aussi d'avoir un palier un peu moins intensif qu'on appelle en anglais « intensive case management », que nous appelons au Québec, un peu curieusement, « soutien d'intensité variable ». Et quand on a... C'est parce que le problème, c'est que les équipes de type ACT tendent à garder leurs clients, les personnes qu'elles ont à charge très longtemps et deviennent bouchées. Donc, c'est vraiment important d'avoir un dispositif un peu moins intensif vers lequel on peut les transférer et de mettre en place des mécanismes pour que ces équipes moins intensives aussi aient un flux dans la file active. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais j'aurai des suggestions éventuellement là-dessus aussi. Merci.
D'accord. Peut-être une dernière question, puis après, peut-être...
On va refaire une série après. Je ne sais pas, c'est toi qui as...
Ninon Vorov, de la Fédération des acteurs de la solidarité. En fait, j'ai une question que je n'ai pas réussi à poser tout à l'heure, qui concerne plutôt l'aspect opérationnel. En fait, vous avez très bien décrit la méthodologie d'intervention des équipes, la pluridisciplinarité, mais je n'ai pas forcément bien saisi comment ça s'intégrait avec toute la partie gestion locative et en quelle mesure les opérateurs d'intermédiation locative étaient intégrés ou pas dans l'équipe pluridisciplinaire et quel lien il y avait entre eux avec l'équipe et également avec le bailleur, qu'il soit privé ou social, parce que c'est une question qui va se poser en pratique lors du déploiement et de l'SMH.
D'accord. Je propose peut-être qu'on réponde à ce premier temps de questions, puis on en prendra quelques-unes après. Voilà,
il y a alors, une question là-bas après. Il y a beaucoup de choses qui ont été posées. D'abord, sur les questions de fluidité et de flux, et plus globalement sur ces intensités différentes qui, en termes de réponses. Bon, c'est évidemment un sujet. On s'est donné, mais c'est purement indicatif. Je ne sais pas, Pascal va me faire les gros yeux de dire ça, mais on aimerait un taux de fluidité de 20%. Voilà. C'est-à-dire que... non, mais c'est un repère. Évidemment, on est bien d'accord sur le fait que la question du temps, notamment de l'accompagnement... ne doit pas être borné. Ça, voilà, on l'a posé de façon bien claire et je le redis. Mais en même temps, il y a quand même à essayer de mettre en place une fluidité et on l'a bien vu, il y a un droit commun en France qui peut fonctionner à partir du moment où il y a, pour reprendre le terme, une intensité moins forte qui peut être proposée. Ça pose pas mal de questions parce que, d'abord, ça pose la question de l'accompagnement social tel qu'il existe en France. C'est vrai qu'on est beaucoup courtisé au niveau du chez-soi d'abord. J'en faisais un peu la remarque ce matin parce qu'il n'y a sans doute pas assez de paliers d'accompagnement qui ont pu être modélisés, qui ont pu être réfléchis et qui correspondraient à des interventions différentes vis-à-vis de publics en situation différente. Bon, j'y reviendrai aussi, mais le chez-soi d'abord, il pose plein de questions à son environnement. Et il pose celle-là notamment. C'est-à-dire, OK, il a démontré la pertinence de son modèle pour des personnes qui étaient en situation extrêmement difficile. Et quoi pour ceux qui sont dans des situations moins difficiles et qui ont aussi besoin de fort accompagnement et qui, d'une certaine manière, ont toute leur place dans la volonté d'offrir, de donner, d'accompagner pour qu'il y ait un rétablissement et une vie meilleure. Bon, donc cette question-là, elle est bien reprise par la DIAL, mais... il va falloir construire sur des éléments qui existent déjà, mais qui ne sont sans doute pas modélisés nationalement. Là, il y a un vrai sujet et ce point-là est vraiment pour nous une priorité dans l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que, quand je le disais ce matin, le retour au droit commun, derrière, dans mon esprit, il y avait immédiatement beaucoup de points d'interrogation qui s'ouvraient. Et c'est ces points d'interrogation auxquels il va falloir répondre. Sur le GCSMS, on a beaucoup discuté sur le GCSMS, ce sera le GCSMS et on n'en sortira pas. Voilà. C'est comme ça.
Vous
groupement de coopération sociale et médico-sociale. Voilà. C'est une structure très souple. En fait, l'idée, au-delà du terme, vous avez raison de poser la question, au-delà du terme, c'est une structure très souple qui permet d'associer des structures qui sont sur des champs différents. On aime cette souplesse, on aime cette interdisciplinarité et on aime sa gouvernance. Et ça nous permettra, je pense, d'être très cohérents avec l'idée du chez soi d'abord. Donc, oui, c'est un GCSMS, il va falloir y passer. Sur la question des multisites, oui, c'est une piste. Hein. Évidemment, c'est une piste, mais voilà, on va avoir un problème. Je suis très transparent avec vous. On va avoir un problème de montée en charge. C'est-à-dire que il est clair qu'on va se concentrer sur d'abord les projets qui existent déjà et qui sont quasi prêts ou en tous les cas en finalisation et qui sont essentiellement urbains. Et en parallèle, on va aborder cette question effectivement de la meilleure répartition territoriale de cette réponse. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment, mais c'est à construire. C'est une obligation pour moi en tous les cas. C'est-à-dire que je regretterais fortement qu'on ne puisse pas couvrir le territoire d'une manière pertinente, mais le modèle tel qu'il existe, il fonctionne bien sur environ 100 personnes. Voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose à réfléchir, à fonctionner pour décaler le modèle, pour plus exactement le décalquer dans des approches soit multisites, soit d'équipe mobile ou un mélange de tout ça ou d'autres solutions qui pourraient paraître particulièrement intéressantes. Donc, on est bien là-dessus, mais ça reste encore une fois à modéliser. Mais voilà, c'est une obligation pour nous. C'est ça, c'est le message que je veux vous faire passer. C'est vraiment pour nous une évidence qu'il faut le faire. Alors, ça m'amène justement à la première question sur les questions de complémentarité, de travail qui est déjà engagé dans un certain nombre d'endroits et le souhait d'intégrer. Je l'ai dit juste à l'instant, le fait d'avoir réussi à pérenniser le chez-soi d'abord nous a rendu extrêmement attractifs. Et certains ont vu des possibilités de financement réelles et la résolution de leurs problèmes permanents et annuels de recherche d'argent pour essayer de s'en sortir. Bon, tout est possible, mais il va falloir nécessairement repasser par le filtre du choix et de la construction de projets qui seront validés par les différents éléments d'analyse qu'on vous a déjà donnés, que ce soit au niveau local, régional plus exactement, et puis au niveau national. Donc, oui, des projets ou plus exactement des actions existantes, elles pourraient rentrer dans le chez soi d'abord. Je suis à peu près certain que telles qu'elles existent, elles ne peuvent pas rentrer à l'heure actuelle. Je suis honnête avec vous parce que les publics sont souvent différents. En tout cas, tous ceux qu'on a vus revenir, il y a des différences par rapport au modèle. Et ce modèle-là, je crois que vous l'avez bien compris, on y est particulièrement attaché. Mais sous réserve d'adaptation, il est possible évidemment de discuter. La porte, elle n'est pas fermée, mais ce sera par les filtres qui sont posés pour le choix des sites et dans le respect du modèle tel qu'il est posé. Sur la place de la ville, mais Pascal complétera, sur la place de la ville, elle est essentielle. Elle est essentielle. Rien ne peut être fait sans une complicité forte de la ville au minimum et un engagement réel qui est tout à fait souhaitable parce que d'abord il y a la question des logements et on sait bien que les villes elles tiennent d'une certaine manière aussi le logement et un certain nombre de services municipaux et cet écosystème Il est nécessaire aussi pour que le chez soi d'abord il fonctionne. On est pris dans un réseau institutionnel et on ne l'ignore pas. Mais même d'un point de vue politique. Moi, je pense que les villes, elles ont un rôle politique clair et net pour faire passer cette idée-là. Et donc, dire que tout le monde a droit à un logement et qu'on ne met pas de barrière à l'entrée, y compris pour des personnes, ça a été dit ce matin, où il peut y avoir des représentations et des a priori qui ne permettraient pas cette entrée directe dans le logement, il y a un discours politique à tenir. Et ce discours politique, je pense, il peut considérablement faire avancer la perception des citoyennes et des citoyens sur cette question de la précarité et sur le fait, au final, qu'il est à peu près normal d'aider notre prochain. Voilà. Et de lui proposer des éléments qui permettent à la fois son rétablissement et une vie la plus correcte possible. Voilà, les villes, elles ont ce rôle-là. Sur les questions opérationnelles, ouais. Si j'ai pas oublié des choses.
Non, je pense que tu as tout checké. Sur la question de la gestion locative, alors, pour pas rentrer... Ouais, peut-être Sylvie en dira deux mots. Juste vous dire qu'effectivement, le GCSMS est l'outil qui permet de travailler ensemble et que l'ensemble des partenaires sont dans ce GCSMS. Donc ça, c'est un point important. Et que dans les modèles qu'on a mis en place, il y a une personne qui est dédiée pour la gestion locative et qui travaille au sein de l'équipe. Voilà. Mais je ne sais pas si tu veux ajouter un... Non, c'est bon ? OK. Après, je pense qu'à la fin, vous pourrez peut-être discuter entre vous. Mais globalement, voilà, c'est surtout ne pas scinder les choses. Et ça ne peut marcher que parce qu'au sein de ce GCSMS, ce groupement, on va dire, c'est plus simple, il y a des collaborations de l'ensemble des partenaires. Et il y a un salarié du volet gestion locative qui est au sein de l'équipe. Voilà, mais on peut en discuter. Je vous propose de leur avance, de prendre quelques questions complémentaires et puis...